Bon, décortiquons ça. On fabrique des smartphones ultra complexes en quelques secondes dans des labos qui sont parfaitement stériles. On assemble des voitures électriques à la chaîne avec genre des robots d'une précision millimétrique.
Ouais, au dixième de millimètre près, en fait.
Exactement. Mais quand il s'agit de construire l'endroit où on dort, l'endroit où on élève nos enfants, bah c'est comme si on était resté bloqué au Moyen-Âge.
C'est tout à fait ça, oui.
On est encore là, littéralement dans la boue, à couler du béton à la main et à prier pour qu'il ne pleuve pas trop.
C'est presque absurde quand on y pense.
Totalement absurde. Et c'est justement pour ça que notre exploration du jour plonge au cœur d'une technologie vraiment fascinante. Ça s'appelle la Precast Frame Structure, ou pour le dire en français, la structure à ossature préfabriquée.
C'est un concept qui change la donne vraiment.
Et la mission de cette analyse, c'est de comprendre pourquoi notre retard technique actuel tue littéralement des milliers de personnes. Et surtout, comment l'usinage d'un simple bâtiment pourrait en fait résoudre l'une des pires crises humanitaires de notre époque, la crise mondiale du logement.
Et tu sais, le terme crise humanitaire, c'est tout sauf une exagération.
Non, les chiffres sont effrayants.
Complètement. Quand on regarde les vrais chiffres tirés de nos sources, c'est d'une brutalité saisissante. On ne parle pas juste d'un marché immobilier un peu tendu, avec des taux d'intérêt embêtants pour les jeunes acheteurs.
Non, l'enjeu est bien plus grave.
Voilà, on parle de 2,8 milliards de personnes à travers le monde qui sont mal logées. 2,8 milliards.
C'est un tiers de l'humanité, quoi.
Exactement. Et l'absence d'un accès équitable à un logement adéquat, ça cause environ 730 000 décès évitables chaque année.
730 000 morts, c'est...
Ça fait 2 000 morts par jour. 2 000 personnes qui perdent la vie quotidiennement, tout simplement parce que leurs conditions de vie sont insalubres, dangereuses ou carrément inexistantes.
C'est vertigineux. 2 000 personnes par jour. Et ce qui me frappe en lisant ces documents, c'est de voir à quel point ça a un effet domino, en fait.
C'est-à-dire?
Bah, ça touche absolument toutes les sphères de la société. Ça va de la simple sécurité financière au quotidien jusqu'aux tendances démographiques les plus lourdes.
Ah oui, le lien avec la démographie est super intéressant.
Ouais, par exemple, si on prend ce qui s'est passé aux États-Unis en 2024, le taux de natalité a plongé à un niveau historiquement bas.
Ouais, après 20 ans de déclin continu en plus.
C'est ça. Et la flambée des coûts du logement est citée comme un facteur contributif majeur de cette chute. L'équation est assez brutale au final. Quand on n'a pas la garantie d'avoir un toit abordable au-dessus de sa tête, bah, on ne fonde pas de famille.
C'est presque mathématique en fait. Et le truc, c'est que les déficits en matière de logement sont colossaux, et ce, absolument sur tous les continents.
C'est pas juste un problème local.
Pas du tout. Aux États-Unis, nos sources indiquent qu'il manque entre 4 et 7 millions de foyers. En Inde, on parle d'une pénurie cumulée de logements abordables qui est estimée à 31,2 millions d'unités, rien que pour l'année 2023.
31 millions. C'est un pays entier à construire.
Et la France n'est pas épargnée non plus. On compte près de 15 millions de personnes touchées d'une manière ou d'une autre par cette crise.
15 millions?
Ouais, que ce soit par des risques sanitaires liés au logement, la menace constante d'une expulsion ou une surpopulation dramatique dans de petits appartements.
Et j'imagine que c'est la même chose au Royaume-Uni, au Nigeria.
La liste est sans fin. C'est un échec systémique total à l'échelle mondiale.
Mais alors, d'où vient ce blocage? Je veux dire, on est au XXIe siècle. Avec toute la technologie dont on dispose aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est toujours aussi long, aussi pénible et aussi atrocement cher de construire des murs et un toit?
Eh bien, en fait, pour comprendre ça, il faut diagnostiquer la vraie racine du problème. La construction est fondamentalement restée une activité artisanale.
Artisanale, pour des immeubles de plusieurs étages?
Oui, tout à fait. L'industrie du bâtiment n'a tout simplement pas encore fait sa révolution industrielle. Actuellement, les méthodes traditionnelles échouent non seulement à prévenir cette crise du logement, mais elles sont physiquement incapables d'inverser la tendance.
D'accord.
On essaie de résoudre un problème industriel massif avec des outils et des méthodes d'artisans.
C'est un peu comme cette analogie super parlante dans le document. Imaginez un agriculteur qui doit planter 5 immenses champs de maïs pour nourrir une population.
Ah oui, cette métaphore est excellente.
Avec la méthode actuelle du bâtiment, cet agriculteur ferait ça de manière totalement séquentielle. Il plante le premier champ à la main, ensuite il attend des mois que ça pousse, il récolte. Et seulement après, il prend les graines de cette récolte pour planter son deuxième champ. Et il attend encore.
Ce qui prendrait des années.
Voilà. Face à une famine mondiale, ça n'a absolument aucun sens. Ce qu'il devrait faire, c'est de la culture simultanée. Rassembler assez de graines dès le départ et planter les 5 champs en parallèle, avec des machines.
Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point cette image du champ de maïs, s'applique implacablement à la réalité d'un chantier en béton traditionnel.
Le fameux béton coulé sur place.
Exactement. Prenons un exemple très concret pour bien comprendre. Imaginons la construction d'un petit immeuble résidentiel de 5 étages, avec, disons, 10 appartements au total.
Ok, un truc assez classique.
Voilà. Ce bâtiment va nécessiter la création d'environ 200 colonnes porteuses. Eh bien, aujourd'hui, chacune de ces 200 colonnes est sculptée à la main.
Sur place.
Comme si c'était une caisse de musée unique.
Et quand on décompose le processus de chaque colonne, c'est là qu'on comprend l'absurdité du truc. Je lisais ça et j'étais scotché.
C'est très laborieux.
Pour une seule colonne, il faut d'abord faire venir des charpentiers pour installer un coffrage en bois. C'est bien ça, hein ?
Oui, la boîte en bois qui va donner la forme.
Ensuite, des ferraillers viennent tresser une cage d'armature en acier à l'intérieur de cette boîte. Après, des toupies arrivent pour couler le béton liquide.
Et là, il faut le vibrer manuellement pour chasser les bulles d'air.
C'est ça. Ensuite, on retire le coffrage. Et à ce stade, c'est pas fini. On doit arroser le béton et on attend 28 jours. 28 jours pour le durcissement chimique complet. Et on répète cette même chorégraphie 200 fois.
Et n'oublions pas que tout ça se fait strictement de manière séquentielle, comme le champ de maïs, cet étage par étage.
On ne peut pas faire le toit avant le rez-de-chaussée, évidemment.
Exactement. On construit le rez-de-chaussée, on attend. On monte les colonnes du premier étage, on attend. Pour notre petit immeuble 5 étages, ça représente une vingtaine de séquences d'opérations distinctes.
Et à chaque fois, il y a théoriquement cette fameuse période de durcissement.
Sans compter qu'on fait tout ça à l'air libre, donc on est à la merci de la météo. S'il pleut beaucoup, le chantier est inondé. S'il gèle, le béton ne prend pas correctement.
S'il fait trop chaud en été, il craquelle.
Voilà. Quiconque nous écoute a certainement déjà vu un de ces chantiers urbains paralysé pendant des semaines. Tu passes devant, il n'y a pas le moindre ouvrier en vue.
Ouais, on a l'impression que le projet est abandonné ou qu'il ne s'y passe rien.
En fait, ils attendent juste que l'eau s'évapore et que le béton sèche, c'est tout.
D'accord, donc le béton coulé sur place est une véritable hérésie face à l'urgence de la crise du logement. Mais alors, comment on change de paradigme si on veut vraiment industrialiser tout ça? Comment on repense complètement l'anatomie même d'un bâtiment?
Eh bien...
La première étape, et c'est vraiment fondamental dans ce document, c'est d'éliminer les murs porteurs.
Attends, éliminer les murs porteurs? Mais ça paraît totalement contre-intuitif. Si on enlève le mur qui porte le bâtiment, qu'est-ce qui empêche le plafond de nous tomber sur la tête? Je comprends la réaction, mais c'est justement ça, le piège du mur porteur. C'est un très mauvais compromis d'ingénierie.
Ah bon?
Oui, parce qu'il essaye de faire trop de choses en même temps. On demande à un mur porteur de définir l'espace d'une pièce, d'isoler thermiquement contre le froid, et en même temps de supporter tout le poids des étages supérieurs et de résister au vent violent.
Il fait tout le boulot?
Sauf que quand on demande à un seul matériau de tout faire, il ne fait rien de manière optimale. La vraie solution pour basculer dans l'industrialisation, c'est de séparer ses fonctions. Il faut passer à un système de poteaux et de poutres, ce qu'on appelle une ossature.
D'accord, donc on sépare le squelette de la peau du bâtiment, en fait.
Exactement. Le squelette porte les charges lourdes et les murs ne sont là que pour fermer l'espace et isoler. Et c'est là qu'intervient la règle d'or de l'industrialisation.
Le bon matériau à la bonne place, c'est ça?
C'est ça. Pour transférer les charges monumentales d'un immeuble vers le sol, le béton est imbattable, en compression. C'est le meilleur.
Mm-hmm.
Pour les murs de remplissage, qui eux ne portent plus rien du tout, on peut utiliser ce qui est local et pas cher. De la brique, des blocs de chanvre, du bois, peu importe.
Ok.
Mais le point crucial, vraiment la clé de voûte absolue pour que ce squelette préfabriqué tienne debout de manière industrielle, c'est l'acier. Plus précisément, l'acier pour créer les connexions entre les poteaux et les poutres.
Et ça, c'est un paradoxe qui m'a sauté aux yeux en explorant ce sujet, surtout quand on regarde d'autres types de constructions.
Lesquelles ?
On voit de plus en plus de gratte-ciel en bois moderne aujourd'hui. Aux États-Unis, par exemple, il y a la fameuse tour Ascent qui fait 25 étages.
Ah oui, très bel exemple.
Et en Norvège, le bâtiment Munchtornet fait 118 étages, le tout construit entièrement en bois. Et devine quoi ?
Je t'écoute.
Ces immenses bâtiments en bois utilisent tous des joints en acier pour assembler leurs immenses poutres entre elles.
Bien sûr !
Alors la question que je me pose, c'est pourquoi l'industrie du béton s'acharne-t-elle à faire des connexions en béton? Pourquoi est-ce qu'il y a ce refus de faire la transition logique vers l'acier pour les jointures?
Si on relie ça au contexte global de l'histoire des techniques, en fait, on se heurte à une inertie monumentale.
L'habitude, en gros.
Voilà. Historiquement, quand on construisait de petites maisons, chaque corps de métier gardait ses propres techniques de fixation, par simple habitude. le charpentier lit le bois avec des chevilles en bois, le métallurgiste soude l'acier avec de l'acier, et le maçon, il lit le béton avec du béton frais.
C'est logique à petite échelle.
Mais dès qu'on commence à construire des bâtiments à plusieurs étages, la physique change du tout au tout. Il n'y a pas d'alternative viable à l'acier pour créer des connexions capables de résister aux immenses moments de flexion et de rotation.
Donc, le béton est parfait pour les colonnes verticales.
Oui, mais pour lier cette ossature dans les airs, l'acier devrait être l'unique standard depuis longtemps.
Ce qui m'amène à me poser une question vraiment importante sur le talon d'Achille de nos immeubles actuels. Est-ce que les joints traditionnels en béton, ceux qu'on coule sur place, sont vraiment si mauvais que ça ?
Le problème, il ne vient pas du poids du bâtiment lui-même. Les charges verticales, la gravité, c'est très prévisible et facile à calculer.
On sait comment ça pèse vers le bas.
C'est ça. La vraie menace, ce sont les charges horizontales. Le vent, les ouragans, les séismes. Ces forces latérales sont violentes. Elles sont imprévisibles et elles ciblent directement les articulations du bâtiment.
Ses genoux et ses coudes, en quelque sorte.
Exactement. Or, dans le béton traditionnel coulé sur place, les joints n'ont absolument aucune personnalité structurelle. Ce ne sont que de simples intersections passives.
Ils ne se défendent pas du tout face à la force, en fait. Ils se contentent de subir.
C'est même pire que ça. Il y a une illusion technique dont il faut absolument parler à notre auditoire. C'est l'illusion de la structure monolithique.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Quand on regarde un immeuble en béton de l'extérieur, on a l'impression que c'est un seul bloc solide, coulé d'une seule traite, d'un seul jet.
C'est vrai que ça donne cette impression de bloc massif.
Mais c'est physiquement impossible de couler un immeuble de 5 étages en un seul jour. Donc la réalité du chantier, c'est qu'on coule les colonnes le mardi, on attend que ça sèche, et on vient couler les poutres le vendredi par-dessus les colonnes du mardi.
Ah, je vois où tu vas en venir.
Et ça crée ce qu'on appelle en ingénierie un joint froid. Le béton frais de vendredi ne se mélange pas chimiquement avec le béton déjà sec du mardi.
Il est juste posé dessus, quoi.
Littéralement. L'adhérence à cette jonction critique est fondamentalement faible.
Et c'est là que ça devient vraiment, mais alors vraiment intéressant. C'est précisément pour détruire cette fragilité que la technologie de la precast frame structure intervient.
Exactement.
Puisque les joints en béton sont naturellement faibles, l'idée de génie, c'est de les remplacer par des prothèses en acier ultra résistantes. Des pièces qui sont usinées au millimètre près, en usine, et directement intégrées dans le béton préfabriqué.
La mécanique de cette innovation est brillante. C'est imaginer des cadres en acier massifs qui sont soudés directement aux immenses tiges d'armature qui traversent les colonnes et les poutres à l'intérieur.
Donc l'acier du joint est connecté à l'acier de la colonne.
Voilà. Ce n'est pas juste un boulon vissé en surface. La soudure fait partie intégrante de l'ADN de la pièce. Les tests en laboratoire montrent que chaque point de soudure, chaque racine de cette connexion en acier possède une résistance à la tension de 4 à 5 tonnes.
Juste un seul point de soudure ?
Un seul point, oui.
Et comme il y a de multiples points d'ancrage dans une seule grosse poutre, le total est tout bonnement démentiel. Les calculs d'ingénierie démontrent une résistance de 85 tonnes pour l'ensemble d'un seul nœud de connexion.
C'est énorme.
85 tonnes de résistance à l'arrachement juste pour le joint. C'est fou.
Et c'est ce qui donne au bâtiment une rigidité sans précédent face aux flexions. Et d'ailleurs, le document mentionne un test spécifique pour ça. C'est sans doute la meilleure preuve de son efficacité.
Vas-y, raconte.
Imaginez une colonne verticale en béton de plusieurs mètres de haut, solidement montée sur son socle. Au tout sommet de cette colonne, le laboratoire vient appliquer une force horizontale pure de 500 kg.
Donc, une demi-tonne de pression sur le côté.
Oui, on la tire violemment de côté, exactement comme le ferait la pire rafale d'un ouragan.
Et que se passe-t-il pendant ce test ?
La colonne ne bouge pas, la connexion à la base ne cède pas d'un seul millimètre. Dans le domaine de l'ingénierie des structures, un tel résultat s'est perçu comme une décision de la Cour suprême.
C'est-à-dire ?
C'est définitif et sans appel. À partir du moment où ce test est validé, les ingénieurs peuvent considérer que l'ossature entière est parfaitement encastrée. Ça permet d'ailleurs de créer des espaces intérieurs immenses sans avoir besoin de mettre des piliers au milieu du salon.
Des portées beaucoup plus grandes, donc.
Exactement.
Ce qui veut dire, si on résume, que face à des catastrophes naturelles majeures, comme des gros séismes ou des vents cycloniques, le comportement de ce bâtiment change du tout au tout.
C'est un changement de catégorie.
Au lieu d'avoir des joints froids en béton qui vont se fissurer et provoquer l'effondrement, on a un squelette avec des jointures en acier d'une souplesse et d'une force inouïe.
Et en combinant ces joints en acier avec des dalles massives pour le toit et les planchers, l'immeuble devient une espèce de boîte fermée. Un cube structurel quasi indestructible. Même dans le pire des scénarios sismiques, le bâtiment reste debout.
C'est super rassurant.
Oui. Et c'est là que la magie de l'industrialisation opère vraiment. Parce que, puisque toutes ces pièces maîtresses, les poteaux avec leurs embouts en acier, les poutres, les dalles, les escaliers, sont fabriqués en usine.
À l'abri de la pluie, avec un béton vibré à la perfection.
Exactement. Eh bien, il n'y a plus aucun temps de séchage sur le chantier. L'assemblage devient, littéralement, un jeu d'enfant.
Un gros jeu de construction.
C'est ça. On amène la grue, on soulère la poutre, on l'emboîte sur la colonne, on soude l'acier ou bien on le boulonne et hop, on passe au suivant.
Et ça, ça pulvérise complètement les délais et les coûts. On a parlé de la lenteur dramatique du béton traditionnel tout à l'heure, avec les 28 jours d'attente à chaque étape. Mais avec cette méthode préfabriquée, les métriques changent de galaxie.
Ah, les résultats promis sont spectaculaires.
Ouais, on obtient des bâtiments construits 4 fois plus rapidement. Ils sont 2 fois plus solides face au séisme. Le coût de construction, lui, est 1,25 fois plus abordable, ce qui est crucial pour la crise du logement, et le bilan carbone global est 2 fois plus respectueux de l'environnement.
Et si on reprend notre fameux exemple du début, notre petit immeuble de 5 étages, au lieu de passer des mois à attendre bêtement que le béton sèche sous la pluie,
ouais.
Les structures complètes, prêtes à être habitées, peuvent être remontées en 3 mois grand maximum. Mais le plus impressionnant pour moi, c'est le facteur humain sur le chantier.
Bah oui, on n'a plus besoin d'une véritable armée sur place.
Précisément. Pour monter cet immeuble de 5 étages, l'équipe nécessaire est minuscule. Il faut 6 soudeurs qualifiés.
Ok, 6.
6 manœuvres pour guider les pièces avec les grues. 2 maçons pour les finitions. Et un seul superviseur, c'est tout. 15 personnes au total.
15 personnes pour monter un immeuble entier en un temps record.
Voilà, et c'est cette baisse radicale de la main-d'œuvre qui fait chuter le coût global de 25%. Sans compter l'aspect écologique, c'est une révolution discrète de ce côté-là.
C'est clair. Un chantier de béton traditionnel, pour l'avoir vécu en habitant à côté, c'est infernal. C'est bruyant, la poussière vole partout, t'as des camions toupies qui recrachent du CO2 en tournant au ralenti toute la journée.
Et à la fin du projet, on jette des tonnes de bois de coffrage couverts de ciment qui ne servent plus à rien.
Alors qu'ici ?
Ici, il n'y a pas de gaspillage. Pas de bois jeté, puisqu'on utilise des moules en usine. Pas de béton renversé sur la route. Il n'y a rien à percer, il n'y a rien à couper sur place.
C'est de l'assemblage pur.
On lève la pièce, on soude l'acier. Le chantier est étonnamment calme et très propre.
Ça a l'air parfait. Mais... cela soulève quand même une question importante. C'est d'ailleurs souvent la première objection qu'on entend quand on parle d'industrialiser massivement le logement.
Je vois très bien de quoi tu vas parler.
Si on se met à produire des colonnes et des poutres à la chaîne dans des usines, avec des dimensions standards, est-ce qu'on ne fonce pas tête baissée vers un cauchemar urbain ? Est-ce que toutes nos villes vont se transformer en immenses banlieues monotones, avec des blocs de béton tous identiques, comme dans les pires années 60 ?
Ah, la peur du fameux clone de béton soviétique, hein. C'est une crainte super légitime.
C'est la hantise des urbanistes.
Mais la nuance apportée par nos sources est fondamentale. Et c'est vraiment là qu'est tout le génie du concept. Ce qui est industrialisé, c'est la structure, c'est le squelette interne du bâtiment. Ce n'est pas l'architecture, ce n'est pas la peau du bâtiment.
Donc ça ne se voit pas de l'extérieur ?
Non. Il n'y a absolument aucune fatalité à la monotonie avec ce système. En fait, l'utilisation d'un catalogue d'éléments standardisés permet une infinité de designs.
Et la mécanique derrière cette diversité en usine est très maligne, d'après ce que j'ai compris. Il ne s'agit pas d'avoir 500 moules différents empilés dans un hangar.
Pas du tout. Avec seulement une vingtaine de moules métalliques de base, qui sont d'ailleurs réutilisables à l'infini, on peut concevoir des géométries complètement différentes.
Mais comment on fait si, par exemple, un architecte a une vision très spécifique pour un projet ? Disons qu'il lui faut absolument une poutre qui fasse exactement 437,5 cm de long.
Eh bien, ce n'est pas un problème pour l'usine. Ils utilisent simplement un moule ajustable de 5 mètres de long. Ils placent un séparateur à la mesure exacte demandée par l'architecte. On coule le béton et la pièce sort sur mesure.
Et ça ne ralentit pas la chaîne de production ?
Absolument pas. Le squelette reste standard dans sa logique de connexion en acier. Mais l'architecte peut ensuite habiller ce squelette comme il le souhaite. Avec de la belle brique rouge, de grandes baies vitrées lumineuses, du bois, du crépi.
La créativité reste totalement intacte. C'est l'ossature qui est rationnelle, pas la façade.
C'est exactement ça.
Et il y a un autre avantage énorme, qui est presque invisible pour le grand public, mais qui est peut-être le plus gros levier pour résoudre la crise dont on parlait au début. C'est la paperasse.
Ah oui, l'enfer administratif.
Aujourd'hui, quand un promoteur lance un projet immobilier, c'est considéré comme un prototype unique. L'ingénieur doit recalculer la résistance de chaque mur, de chaque jointure. Ensuite, il soumet un dossier épais comme un dictionnaire à la mairie pour obtenir le fameux permis de construire.
ce qui prend des mois, parfois des années de procédure.
Alors qu'avec la Precast Frame Structure, l'ossature est déjà certifiée. Les fameux nœuds en acier ont déjà subi les tests de résistance de 85 tonnes.
Les ingénieurs de la ville savent déjà que ça tient. Ils n'ont pas à tout revérifier de zéro.
Voilà. Ça simplifie et ça accélère drastiquement les processus d'approbation administrative. Les bâtiments sortent de terre sur le papier beaucoup plus vite et physiquement, 4 fois plus vite ensuite.
Et il faut bien préciser à notre auditoire que tout ça, ce n'est pas de la science-fiction pondue par un universitaire rêveur.
Non, c'est très concret.
Cette ingénierie est tellement aboutie qu'elle est déjà protégée par des brevets mondiaux majeurs. On parle de l'Office européen des brevets, du bureau américain, de la Chine, de l'Inde, et même des pays connaissant une croissance démographique fulgurante, comme le Burundi, ont validé ces brevets.
C'est littéralement prêt à être déployé massivement à l'échelle de la planète.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Si on prend un peu de recul sur cette plongée très technique dans nos sources, l'idée maîtresse est d'une clarté redoutable. L'humanité ne peut tout simplement plus se permettre de construire ses abris de manière artisanale.
Ce n'est plus tenable.
En déplaçant la complexité du chantier directement vers l'usine et en mariant la force de compression du béton avec des connexions invincibles en acier, on obtient enfin un outil à la hauteur de la crise du logement. Pour donner une idée de l'urgence absolue, on rappelle ce chiffre. Aux États-Unis, même si on parvenait par magie à doubler le rythme de construction actuel dès demain matin...
Ce qui est impossible avec les méthodes actuelles.
Oui, mais même si on y arrivait, il faudrait quand même 5 à 10 ans de travail acharné à ce rythme fou, juste pour combler le manque de maisons d'aujourd'hui.
C'est décourageant et motivant à la fois.
L'industrialisation par l'ossature, ce n'est plus une simple option technique sympa ou un moyen d'optimiser les marges financières d'un promoteur immobilier.
Non, c'est une nécessité absolue de survie urbaine. C'est la seule porte de sortie face à la demande mondiale.
Et pour clore cette réflexion, je sais qu'il y a une perspective vraiment audacieuse qui se dessine en filigrane de ce concept d'assemblage à sec par boulomage et soudure.
Oui, c'est une piste de réflexion qu'on peut laisser à ceux qui s'intéressent à l'avenir des villes.
Vas-y, partage cette idée.
Eh bien, on peut se demander si cette technologie ne va pas redéfinir notre rapport même à l'urbanisme. Si le squelette de nos immeubles devient un immense jeu de Lego industriel ultra solide, mais composé de pièces indépendantes, est-ce que l'avenir ne sera pas aux bâtiments démontables ?
Attends, des immeubles nomades ?
En quelque sorte, oui. Aujourd'hui, quand la démographie d'un quartier change, ou qu'une zone devient inondable à cause du climat, qu'est-ce qu'on fait ?
On dynamite les vieux immeubles.
C'est vrai, on détruit tout.
C'est un gâchis de matériaux et d'énergie absolument colossal. Mais avec cette technologie de joints en acier, ne pourrions-nous pas simplement envoyer une petite équipe, disquer les points de soudure, déboulonner les poutres et déplacer l'immeuble entier, pièce par pièce?
Pour le reconstruire ailleurs? Exactement, vers une nouvelle ville où la crise du logement frappe plus fort, par exemple. Cette alliance intime entre le béton et l'acier pourrait bien nous offrir à terme une architecture complètement résiliente, modulaire, capable de s'adapter aux migrations climatiques et aux urgences humaines en temps réel.
C'est une piste de réflexion véritablement passionnante pour l'avenir de nos espaces de vie. Et une perspective qui prouve bien qu'en repensant le détail le plus infime, la façon dont deux poutres se connectent entre elles, on a le pouvoir de remodeler complètement le visage de nos sociétés. Le chantier du futur ne fait que commencer.